nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, votre émission Focus sur Canal Académie a le grand plaisir de recevoir devant ses micros aujourd'hui Jacques Ruttmann. Jacques Ruttmann, bonjour.
Bonjour.
Pour vous présenter à nos auditeurs, je dirais, Jacques Ruttmann, que vous avez à votre actif 1000 heures environ de vidéos, dont 800 en direct. Vous êtes réalisateur, auteur, producteur artistique et vous avez donc réalisé plus de 120 films, dont 3 téléfilms, 13 documentaires de création, des grands documentaires de création. Certains de nos auditeurs se souviendront sans doute de Une belle vie. C'était toute une série consacrée à de grands noms de la littérature, du théâtre, des sciences, tels que Jean Vilar, Jacques Monod, Pierre Dac, Joseph Kessel, Raymond Queneau. Quelques mots sur ces souvenirs ?
Eh bien, c'est une série dont je suis assez fier. Ce sont des grandes biographies de la taille d'un long métrage à chaque fois et qui sont nées d'un vide existant dans ce domaine. Et d'un premier petit documentaire que j'avais fait sur le théâtre consacré à Louis Jouvet, qui était une illustration dont j'étais aussi très, très fier parce que tout à fait original. C'était l'illustration simplement d'un discours de
Louis Jouvet.
De Louis Jouvet, illustré uniquement, sans un mot de commentaire. Et après ça, j'ai eu envie de faire des biographies. Alors j'ai fait un Charles Dullin et de fil en aiguille. L'originalité de ces documentaires, c'est qu'il n'y a pas un mot de commentaire. Tout est un
récit. Que du bonheur, que de l'essentiel.
Voilà, soit des archives des personnages, soit des témoins qui les ont connus ou les ont rencontrés.
De grands témoignages donc. Et qui appartiennent maintenant à la mémoire du service public. Car nous parlons d'un temps où toutes les chaînes étaient réunies. C'est ce que l'on appelait l'ORTF.
Et le temps où on ne parlait pas d'audimat, mais parce qu'on le faisait, cet audimat. Il n'y avait pas besoin d'avoir peur. On n'était pas lié par des standards de production comme aujourd'hui. Tous ces films dont je vous parle, ils ont chacun leur longueur. Ils ne font pas 52 minutes, 90 minutes.
Pour la publicité.
Voilà, pour faire la place à la publicité. Il n'y en avait pas besoin de la publicité.
Alors, au niveau de la fiction, on se souvient de Léon Blum, À l'échelle humaine, un film de 3 heures de temps. Et là, c'est la toute dernière diffusion avant le passage à la privatisation, c'est-à-dire TF1 d'un côté, Antenne 2 de l'autre. Hein, c'est bien ça.
Absolument, oui. C'est une grande biographie qui raconte la vie de Léon Blum au travers de ses mémoires, des écrits qu'il avait faits, et qui raconte notamment le fameux procès d'Orion où le régime de Vichy avait mis en accusation les dirigeants du Front populaire pour essayer de faire croire que c'était eux qui étaient responsables de la défaite, alors que c'était lui responsable de la défaite de l'état de l'armée avant la guerre. Donc on a reconstitué ce procès à Rion même. J'ai tourné dans les décors réels. J'ai tourné aussi dans le camp de concentration, dans l'endroit, enfin celui-là je l'ai reconstitué, où Léon Blum a été interné, mais aussi dans les châteaux en France où il a été interné avant d'être déporté, dans les cellules, dans les lieux mêmes. C'était une volonté de faire parler les murs.
C'est important. La mémoire est là, dans les murs. Et elle communique aussi, à travers les siècles. Alors, des magazines, des concerts, des débats, des films scientifiques, économiques, des films enquêtes, des films littéraires, musicaux, artistiques. Et puis alors, des émissions telles que tout le monde a en tête l'intitulé d'une émission célèbre, La tête et les jambes, qui réunissait des millions de téléspectateurs, avec un fameux collaborateur, Thierry Roland, aidé de Pierre Belmar. Des émissions qui ont fait vibrer les auditeurs et les téléspectateurs.
Absolument. Et j'avais le grand plaisir de m'occuper des jambes.
Des jambes.
J'étais l'homme des jambes. Et j'allais chercher dans toute l'Europe des sports originaux, le lancer du tronc d'arbre écossais, le franchissement des rivières en Hollande, etc.
Que des bons souvenirs.
Que
Jacques
des
Redmond.
Bons souvenirs.
Alors, parallèlement à cela, tout un parcours syndical.
Absolument.
Expliquez-nous.
Eh bien, nous avons créé un syndicat des réalisateurs et créateurs de l'audiovisuel qui s'appelle le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel, dont le sigle est SRCTA et qui, je passe tous les épisodes de ses affiliations, et qui finalement est cofondateur de l'UNSA et membre de l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. Voilà.
Alors donc, c'est un syndicat qui est abrité par France 2 ?
Oui, nous avons la section syndicale à France 2, est en même temps notre secrétariat général. Mais nous avons une section syndicale à France 3, nous avons une petite à TF1 aussi, nous en avons d'autres à FR3 Île-de-France. Il y a comme ça plusieurs sections syndicales, mais le secrétariat est à France 2.
Alors là, Jacques Reutemann, vous venez de nous parler aujourd'hui devant les micros de Canal Académie d'un magnifique projet qui a pour titre la chaîne du patrimoine. Alors, est-ce une création, une imagination venue du cerveau de Jacques Reutemann, ou est-ce que c'est un collège de réalisateurs autour de vous qui a émis ce projet? Comment est-ce que ça s'est passé par rapport à cette chaîne du patrimoine?
Je veux dire quand même modestement, c'est né dans le cerveau de Jacques Reutemann. Bon. Mais après des entretiens avec des collègues, parce que c'est né d'un coup de colère.
Pourquoi ?
Le coup de colère, c'est de constater que les chaînes de service public, ça c'est en 2004 ou 2005, à peu près, lorsque l'on venait leur dire, par exemple, c'est le, je ne sais plus combien, 25e anniversaire de la mort du grand scientifique Jacques Monod, prix Nobel de médecine, c'est pas n'importe qui. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose ? Ah non, on n'a rien prévu. Ah bon ? Écoutez, je vous signale qu'il existe un véritable long métrage d'1h15 que j'ai fait, qui n'est peut-être pas mal, et ça serait peut-être l'occasion de le rediffuser puisque vous n'avez rien fait et que vous ne faites rien.
Réponse ?
Eh bien, on restait muet de saisissement que je propose de montrer quelque chose d'ancien, aujourd'hui. Et quand je disais, regardez-le, je vous envoie un DVD. Il ne le regardait même pas. Alors j'ai renouvelé l'expérience avec une autre chaîne, avec un autre grand film que j'ai fait sur Jean Vilar, par exemple. Eh bien, la même chose. Bon, alors, puisque le service public n'a pas de place, ni pour refaire, ni pour montrer des merveilles qui méritent quand même d'être montrées pour l'ensemble des publics et des citoyens, c'est pas n'importe quel petit film de rien du tout. Bon, eh bien, on se dit, il y a la TNT qui se développe, qui va être national, accessible au plus grand nombre. C'est là qu'il faut chercher une voie pour créer une chaîne sur la TNT nationale de service public, une chaîne qui sera dédiée à tout ce qui dort, les merveilles qui dorment dans les archives.
Alors expliquez-nous, Jacques Reutemann, quelles sont ces merveilles qui dorment dans les archives ?
Eh bien, ce sont des programmes dans tous les genres, des documentaires, dans les variétés, dans les magazines, dans tous les genres de programmes, dans les jeux, pourquoi pas. Aujourd'hui, je constate que TF1 reprend des vieux jeux anciens pour les remettre à la mode. On pourrait rediffuser toute la série de La Tête et les Jambes. Et puis, petit à petit, le projet s'est élargi en disant il faudrait un journal. Un journal consacré uniquement au patrimoine, qui ne parlerait pas de la rubrique des faits divers qui sont réservés aux grandes chaînes tournées vers le bas, mais qui parlerait de tout. Par exemple, lorsqu'il y a eu, hélas, à Bagdad, le pillage, le célèbre pillage de cet énorme musée archéologique, eh bien, on en parlerait en long, en large, on suivrait à la trace, si on retrouve petit à petit les objets volés, comme ça se fait, ou les statues qui ont été explosées par les talibans en Afghanistan, les célèbres grandes statues et où on en est de leur restauration, ce qui se passe, aussi un journal ouvert au festival, à tous les festivals en France, qui n'ont pas de voix, et de fil en aiguille, élargi à tous les patrimoines, le projet s'est développé comme ça. Les musées, par exemple, il y a énormément d'audiovisuels de musées, dans le passé, qui ont été faits, qui n'ont jamais eu d'accès à une chaîne nationale. Bon. D'autre part, il y a beaucoup de films de société qui, aujourd'hui, nous interpellent. Par exemple, je dis, on a monté, pour convaincre les gens, un programme. Parce qu'on nous disait, ça intéressera personne, c'est du vieux, c'est du réchauffé, ça intéressera que les vieux qui sont contents de retrouver les programmes de leur jeunesse. Alors, on s'est dit, on va montrer, on va faire quelque chose pour montrer. Et d'autre part, on a constaté, après une analyse sérieuse, que 70 à 90% de tous ces programmes sont aujourd'hui inédits pour 70 à 90% du public. Toute génération confondue, vieux, jeune, pas jeune, etc. Pourquoi ? parce que si on analyse les trois paramètres suivants, le développement de la télévision dans le temps. En 1964, depuis plus de 10 ans de télévision, il n'y avait encore que 3 millions de postes. Et on avait déjà 10 années de programme. Alors beaucoup étaient perdus, c'était du direct, etc. Mais il y avait quand même quelque chose aussi. Bon, ça, la majorité des gens ne l'ont jamais vu. Ensuite, il y a eu une deuxième chaîne, une troisième chaîne. À partir de là, les gens, même s'ils pouvaient commencer à zapper, ils ne regardaient pas trois chaînes en même temps. Donc quand on en voit un, il y en a deux qu'on ne verra pas. Bon. Et puis ensuite, s'est développé ce qu'on a appelé la multidiffusion. Mais ces programmes-là, à l'époque, il n'y avait qu'une diffusion. Et après, hop, dans les archives. Donc ils sont en réalité aujourd'hui inédits. Et beaucoup ont un intérêt à montrer, c'est ce que fera cette chaîne, des programmes liés aux problèmes d'aujourd'hui. Bon, par exemple, dans le programme qu'on a montré, qu'est-ce qu'on a été choisir dans 5 colonnes ? Un sujet sur les harkis. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, la troisième génération, revendique sa reconnaissance de pleine citoyenneté. Donc un sujet comme ça est d'actualité. On montre un magnifique film de Mimoun, un extrait. Alain Mimoun, avec son record dans son effort et racontant sa vie. Eh bien, un programme comme ça, quand notre chaîne existera, aux prochains Jeux Olympiques, 48 heures avant, à 20h30, on montrera comment étaient les Jeux Olympiques du temps de Mimoun. D'autre part, il y a des problèmes de société. On montre dans notre programme un magnifique extrait d'un film consacré au divorce. Le Nouveau Vendredi, ça s'appelait. Bon. Eh bien, une émission comme ça sera introduite par une présentation et sera suivie par un débat. Où on en est aujourd'hui ? À l'époque, on y avait un divorce, je ne sais plus combien, sur 7. Aujourd'hui, on en est à un divorce sur 3. Quelle est la différence ? Donc, ces programmes nourriront une réflexion sur aujourd'hui par rapport à nos racines. Et d'autre part, c'est une émission où on retrouve certaines qualités du langage. Non plus le franglais, qui est tout à fait légitime, pourquoi pas, mais on peut montrer qu'il existe autre chose, tout simplement du français. Hein, du français pas prétentieux, mais on est quand même ici à Canal Academy, donc on peut parler d'une certaine qualité du français. Voilà, je peux parler pendant des heures de tout ce qu'on fera.
C'est un très beau travail humaniste, en quelque sorte. C'est redonner des racines à ces médias magnifiques que sont les télévisions aujourd'hui, et un média que vous ouvririez donc à tous les patrimoines nationaux et mondiaux, si je vous ai bien suivi.
Absolument. Alors, au fur et à mesure, on a constaté qu'il y a des journées mondiales de lutte contre la faim, des droits de la femme, la lutte contre les persécutions. Et donc, ça serait des journées thématiques de cette chaîne avec, en collaboration avec d'autres pays européens. Par exemple, sur la lutte contre la faim, on pourra consacrer une ou deux journées en allant chercher des partenaires qui nous montreront ce qu'ils ont fait, eux. Un film anglais, un film russe, un documentaire brésilien sur le thème. Il y aura donc des journées thématiques et même des semaines. Par exemple, il y a eu le 60e anniversaire de l'ONU. Quelle grande chaîne nationale a fait, à part un petit quelque chose là-dessus ? Nous, on pourrait consacrer une semaine à tout ce qui s'est fait ou s'est pas fait à l'ONU, avec des reportages internationaux de tous les pays.
Vous avez fait la devise de votre chaîne du patrimoine, Jacques Ruttmann, la phrase suivante : le passé, le socle du présent et le tremplin de l'avenir. Et vous venez de l'illustrer brillamment.
Absolument. Est-ce que vous me permettez, ça sera rapide, je pense, de lire notre affiche qui est un peu ce pourquoi nous combattons.
Nous écoutons donc, c'est la philosophie
voilà,
de votre combat.
On y retrouve tout ça. Une chaîne généraliste de télévision nationale du service public sur la TNT est consacrée à tous les patrimoines, présentant les trésors des archives audiovisuelles dans tous les genres de programmes, presque tous inédits aujourd'hui, fédératrice de toutes les générations, accessible au plus grand nombre, outil d'intégration pour les jeunes, financé par l'argent public et pas par la publicité, remplissant ses missions informer, éduquer, distraire, enseigner par l'exemple avec l'accès aux œuvres de l'esprit, affirmant son identité service public, un exemple et un modèle pour l'Europe, caisse de résonance de tous les patrimoines, avec un journal d'information, j'ajoute, valorisant tous les trésors muséographiques, théâtraux, littéraires, musicaux, architecturaux, scientifiques, archéologiques, archivistiques, audiovisuels, cinématographiques. C'est une litanie, mais ça couvre tout. Présentant les racines de la culture française francophone et européenne, avec des programmes populaires de qualité aux heures de grande écoute, qui éclairent notre présent et notre futur.
Alors, deux questions me viennent tout de suite à l'esprit. Vous nous parlez de ces magnifiques trésors, ces programmes enfouis quelque part, mais où sont-ils ? Où sont-ils stockés, ces programmes ?
Eh bien, ils sont, c'est vrai, principalement stockés à l'Institut national de l'audiovisuel, mais nous avons découvert, et donnant la parole et l'image dans notre journée de projection débat, on a tout un panel de programmes de 7 structures d'archives. Il y a par exemple les archives de la danse, de l'agriculture, de l'éducation nationale, sur de l'architecture, puisque nous sommes à la cité, le mémorial de la Shoah, les archives privées Arcaillon, qui sont les archives russes. Il y a énormément de choses. Il y a l'Obster aussi, une société d'archives privées, et il y en aura d'autres. Donc la chaîne sera ouverte à ça. Et également aux musées, à des structures publiques qui ont des œuvres. Il y en a des tas, il y en a dans toute la France, il y a des archives extraordinaires qui seront donc l'aliment de cette... Et puis, il y aura une production, ne serait-ce que des débats pour situer les autres, des dialogues, un journal consacré à tout ce qui se passe sur le patrimoine. Et au moment des festivals, alors tous les festivals auront droit à être connus, à exister. Il n'y a pas que les grands festivals. Voilà un petit peu ce qu'on y trouvera.
Et les émissions de télévision sont donc des émissions qui sont entretenues par l'INA en ce moment, non ? Les émissions de télévision se trouvent stockées.
Enfin, jusqu'à une certaine époque, jusqu'à l'éclatement de l'ORTF, jusqu'à la privatisation plutôt de TF1. Après, les archives continuent d'être données selon la volonté des chaînes de services publics. Mais il y a aussi une chose très formidable qui se passe, hélas, c'est que les chaînes de services publics ne produisent presque plus rien elles-mêmes, alors que tout ce trésor avait été produit en interne par l'ORTF, était propriété entièrement publique. Aujourd'hui, la grande majorité des programmes produits par les chaînes, notamment les services publics, restent la propriété des producteurs privés, même si le financement est majoritairement avec de l'argent public. Donc, il y a une différence considérable.
Et là, nous verrons des créations internes au service public. Donc,
voilà, on verra tout ce qui a été jusqu'à une certaine époque, jusqu'aux années 75, aussi bien en fiction. Il y a un trésor, énormément de fictions qui sont la propriété publique. Toujours,
et on voit des extraits de ces films, de ces émissions au cours de vos projections.
Voilà, on va montrer notamment une bande-annonce de France Télévisions Distribution où on verra une trentaine d'extraits de téléfilms du temps de l'ORTF qui sont des petites merveilles qui méritent d'être remontrées aujourd'hui et qui sont aujourd'hui presque inconnues.
Il est évident qu'à la réflexion, on se demande pourquoi une telle chaîne n'existe pas et ne fait pas partie obligatoirement. Il y a les productions actuelles, mais il y a les productions antérieures. Et les nouvelles générations ont droit de connaître, de savoir.
Alors la raison, c'est que la préoccupation des chaînes qui sont tournées vers le présent, qui produisent sous la pression légitime des producteurs qui disent « voilà, il faut nous donner de l'argent pour faire de la production aujourd'hui, la création fraîche, etc. » C'est bien. Donc, si on analyse les choses, les chaînes existantes ne peuvent pas faire ce que nous souhaitons. C'est un peu... Alors, elles font de temps en temps, vers minuit, on montre un truc du passé. Maintenant, on commence à voir.
Sur France 3, on a
oui,
vu ça.
Oui, ou sur la 5 aussi, ou sur Arte même, il y a un 3 grammes la nuit. Bon... mais ça, ce ne sont que ponctuels, des choses ponctuelles. Nous, on parle actuellement d'une chaîne de 8000, je ne sais plus combien, 700 heures chaque année, 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'on aura l'ambition de montrer au moins la moitié, 4000 œuvres qui dorment dans les archives. On n'est plus dans la même échelle. Donc, seule une chaîne nationale peut le faire. Alors, on a essayé de nous dire pourquoi pas faire quelque chose sur Internet. Mais ce n'est pas la même échelle. Internet, c'est formidable, mais on voit aujourd'hui que dans ce domaine-là, c'est un outil complémentaire. Vous voyez comment, pour les chaînes d'aujourd'hui, se développe à juste titre un site Internet où on peut revoir des choses pendant 8 jours. c'est formidable parce que ça permettrait de limiter les multidiffusions. Et si on en fait moins, on pourra donner la place à des œuvres supplémentaires.
D'autres productions.
Voilà, donc nous, ça sera pareil. On va avoir un site internet pour permettre, tout le monde pourra pas voir. Et du coup, on n'aura pas besoin de faire beaucoup de multidiffusions et on permettra à 4000 œuvres de tous les genres, de toute nature, sorties des oubliettes.
Alors, Jacques Ruttmann, parlez-nous maintenant de la diffusion que vous envisagez, la diffusion à laquelle vous rêvez par rapport à cette chaîne du patrimoine. Est-ce que ce sont des rêves ou est-ce que ces rêves vont devenir réalité ? Expliquez-nous.
Eh bien, pour qu'ils deviennent réalité, actuellement, le projet est entre les mains des pouvoirs publics, le ministère de la Culture, le Premier ministre, la présidence de la République et même de certains parlementaires. Parce qu'une telle chaîne ne peut être qu'instaurée par voie parlementaire, puisque c'est une chaîne de service public financée avec de l'argent public. Et il faut une volonté politique parce que le financement d'une telle chaîne, c'est de l'ordre de 30 millions d'euros. Ce qui n'est pas beaucoup pour une chaîne nationale de ce genre. C'est très faible, mais en même temps, c'est 30 millions. Alors, il faut convaincre le pouvoir public, les pouvoirs publics, soit d'augmenter légèrement la redevance, ça représente 1,50 euros de redevance supplémentaire, soit de faire un autre financement public avec un complément de parrainage, de financement de cette nature qui n'est pas la publicité. Voilà. Alors, on a besoin d'aide. L'un des moyens de faire avancer ce projet, c'est de rassembler un comité de soutien de plus en plus nombreux. On en est déjà à presque 800 personnes, et dont la moitié sont des grandes personnalités,
oui,
y compris 23 académiciens, puisque
tout
nous sommes
fait,
à l'académie.
Tout à fait, vous avez le soutien
ici
d'académiciens fervents.
Voilà. Et de nombreux politiques, de nombreux professionnels grands de la télévision, comme Michel Pollack, comme Bernard Pivot, comme Pierre Tchernia, les grandes figures de la télévision. Il y a beaucoup de comédiens, il y a une soixantaine de comédiens actuellement. Donc on peut nous aider, même les simples citoyens, en nous apportant leur soutien. Et s'ils veulent l'apporter...
Comment faire ?
Eh bien, comment faire ? Il faut soit téléphoner au 01 56 22 56 08 ou 48, je répète, 01 56 22 56 08 ou 48, ou envoyer un mail à la chaîne du patrimoine tout collé .srcta@yahoo.fr ou bien encore à jean-ascenasi@france2toutcollé.fr et on vous enverra une fiche et des informations à remplir pour nous apporter votre soutien qui est gratuit. Mais par contre, on vous donnera ces informations, on a aussi créé une association, l'association La Chaîne du Patrimoine, où là, il faut une modeste cotisation de 20 euros annuels et qui nous permet d'avoir deux fers au feu pour faire avancer ce projet auprès des pouvoirs politiques du CSA. Alors ça, on n'a pas le temps d'expliquer, le CSA a un certain rôle, mais pas de complet, parce que s'agissant d'une chaîne de service public, c'est le droit régalien de l'État. Mais il peut encourager ce que nous essayons d'obtenir, son soutien.
Parfait. Eh bien, écoutez, Canal Académie continuera de tenir informés ses auditeurs de la belle évolution, de la bonne évolution de cette chaîne du patrimoine. Et Jacques Ruttmann, tout neveu, vous accompagne. Et merci d'avoir passé ce temps de partage avec les auditeurs de Canal Académie. Merci.
Merci à vous et merci aux auditeurs. Thank you.